Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM. Bonjour à toutes et à tous. J'ai ouvert le chaudron, vous savez, le chaudron des découvertes, et voici ce que j'ai entendu. Ça aussi. Écoutez, le voyage que le couple s'offre pendant l'Avent est le point culminant de l'année. Il rayonne dès que la date approche. Beaucoup parmi nous deviennent plus joyeux, comme si nous avions autant hâte qu'eux. La lumière qui baigne ces moments est tellement puissante que le bon Dieu en personne doit la remarquer. Lorsqu'ils partent, il est sans doute allongé sur la couchette, installé derrière les sièges. Dieu a tiré le rideau pour se reposer du tumulte de l'univers, des bavardages incessants des anges. Il écoute le ronronnement du moteur, la soufflerie du chauffage, les discussions de Jacob et d'Aiglo. Peut-être même qu'il fredonne tout bas les chansons d'Asie Hibert ou d'Elvis Presley. Et quand les joies de la chair s'éveillent chez la femme et le mari, quand Aiglo décarre par exemple, je trouve ça tellement excitant quand tu caresses ton levier de vitesse et qu'elle pose sa main sur la cuisse de Jacob, il quitte la route nationale à la première occasion pour s'engager sur une route de campagne peu fréquentée. Alors le bon Dieu descend du camion, il va uriner sur l'accotement, balance quelques cailloux et sifflotent pour se distraire pendant qu'ils sont allongés sur la couchette. Et la lumière qui pleut sur les montagnes, sur la route, sur les nuages, les fossés, les fermes et les rivières, cette lumière qui les baigne tous les deux est simplement sublime. Puis, j'ai aussi entendu cela. « Eh bien, ma petite Linda, » déclare Mani, « quand nous entrons, ce qui signifie, cela nous allions le comprendre avec le temps, bonjour, Marchand Linda, et bonne année. » D'ailleurs, elle lui répond aussitôt « brusquement bavarde et joviale après le silence sur la lande de Midness Heidi. « Oui, bonne année à toi aussi, mon cher Manny, et merci pour celle qui vient de s'écouler. » Manny nous observe. Il se contente de nous regarder, puis baisse les yeux sur les pages blanches et vides de son carnet et nous regarde à nouveau. Linda nous regarde, elle aussi. On dirait qu'ils sont tous les deux parvenus à la conclusion tacite que nous ne valons guère mieux que ces pages blanches, qu'on ne peut rien attendre de nous dans aucun domaine, que nous sommes des incapables. Du reste, nous négocions les virages à 30 km à l'heure. L'idée de prendre une cigarette nous traverse brièvement parce que celui qui tient une cigarette à la main semble automatiquement plus sûr de lui, plus expérimenté, comme s'il comptait plus que les autres aux yeux du monde. Mais enfin, Manny ouvre à nouveau la bouche. Nous apercevons ses dents qui se chevauchent, brunies par le tabac, et il dit, sans regarder les pages blanches que nous sommes, « Eh bien, mon petit Zavar !» Nous nous retournons, et dans l'embrasure, découvrons Zavar, grand, maigre et tout essoufflé. Il s'est réveillé très en retard et a couru pour venir au travail. 1 kilomètre d'une seule traite, tout en avalant 2 tartines en route. Son chandail en laine de pays est parsemé de miettes de pain. Il a du beurre au coin de la bouche, il est hors d'haleine. Sa grosse pomme d'Adam monte et descend le long de son cou maigrelet comme un animal cherchant la sortie. Il s'essuie les lèvres d'un revers de main, hoche la tête, tourne les talons et s'empresse de rejoindre le cagibi attenant à la cafétéria pour bien vite enfiler sa combinaison de travail car « Ce est bien, mon petit Zavar !» signifie sans doute « Bonjour, bonne année et merci pour celle qui vient de s'écouler. » Mais aussi « Tu es en retard, dépêche-toi de te mettre au boulot !» Elle avait écrit à Gunnar Gunnarsson. Elle, qui n'était presque rien, avait écrit une lettre à un auteur mondialement célèbre. Elle avait pris cette décision l'été précédent, dans la vallée de Snadalur, où elle avait constaté que le père de Gunnar n'était qu'un homme banal, paysan parmi les paysans. Puis elle avait dansé. Mais il lui avait fallu tout l'hiver pour rassembler son courage et il était plus facile de rédiger cette lettre en l'absence d'Odur. Elle sait que dans ses rêves, Odur se tient sur la pente, en contrebas de leur maison, devenu un vieil homme, et qu'il regarde son fils Bordur prendre la mer comme capitaine à bord d'un Sleipnir tout neuf et plus grand. C'est un beau rêve, sincère et nous n'avons pas l'intention de le souiller. Mais il ne rime en rien avec le fait d'écrire une lettre à Gunnar Gunnarsson et de la lui envoyer à Copenhague pour lui demander conseil et lui dire, certes indirectement, mais toutefois très clairement, « La place de mon fils n'est pas dans les rêves de son père. Je le crois trop complexe pour vivre comme nous autres, cerné par la mer et le poisson et y trouver son bonheur. Il n'y a, comme vous le savez, rien de mal ni de déshonorant à cette vie, mais je considère que ses dispositions l'orientent dans une autre direction. Vous savez mieux que personne que celui qui n'exploite pas ses capacités ne saurait jamais être heureux, et qu'il passe sa vie dans l'ombre de ce qui n'est jamais advenu, mais aurait dû advenir. Peu de choses s'épanouissent dans l'ombre. Et surtout pas l'être humain. Franquin affirme que les fjords de l'Ouest ressemblent plus à une symphonie qu'à un paysage et qu'il est donc vain de chercher à les dépeindre en recourant à des mots fatigués et galvaudés par des milliers d'années d'usage. Je peux, par conséquent, m'épargner la peine de décrire les lieux qui entourent Asta. La Land Rover gris-bleu, toute cabossée, qui traverse cette journée de printemps en peinant et en patinant, les fjords qui s'ouvrent comme autant de cris face à l'océan glacial et ses abîmes, certains sont une fureur, une haine muette, d'autres un soupir d'apaisement, la plupart peut-être tout cela à la fois. Inutile de décrire les montagnes qui s'élèvent si abruptes et vertigineuses que certaines semblent vouloir entraîner la terre vers le ciel et... Non. Asta ne pense pas à tout ça. Ça ne l'intéresse pas. À peine âgée de 15 ans, elle n'est qu'un trait de crayon fin et désemparé, perdu dans le temps. Elle vient dans ce coin paumé, ce trou du cul du monde, parce que ce sale petit crétin de Joy, à qui, malheureusement, elle a pensé sans cesse depuis le mois de janvier. Elle a songé à lui en allant à l'école et en rentrant chez elle, allongée dans son lit, percée par le reflement doux et régulier de sa nourrice, endormie, qui venait d'éteindre la lumière, après s'être adressée un moment à Jésus et à Dieu, ce qui ressemblait à un dialogue avec son époux disparu depuis bien longtemps, cet époux qu'elle n'a jamais pu cesser d'aimer, qui n'a jamais cessé de lui manquer, sans lequel elle n'arrive pas à vivre, et à qui elle parle avant de s'endormir en guise de consolation pour avoir un peu de compagnie. Elle parle si bas que la plupart du temps, Asta ne parvient pas à distinguer les mots, bien que son lit soit tout juste à 2 mètres de la couche de la nourrice. Ce vieux canapé sur lequel elle dort, puisqu'elle cède le lit à la jeune fille. Jusque-là, elles avaient toujours dormi ensemble, blotties l'une contre l'autre. Mais sa nourrice s'est installée dans le canapé l'été dernier, comme si elle avait senti qu'Asta avait besoin d'être seule. Elle n'avait rien dit, elle n'en avait pas parlé. Un soir, la nourrice s'était allongée dans ce canapé et s'était contentée de sourire en réponse à son regard inquisiteur. L'été est là. Il a saupoudré le fjord d'oiseaux des marées, l'a empli de chants, les montagnes sont paisibles. Elle ne prépare plus aucun mauvais coup. Asta et Joseph passent leur journée le dos voûté à arracher ces pierres butées et à les entasser, tandis qu'Arnie répare les clôtures, les machines, les faux, les bâtiments et les filets. Ils triment une bonne semaine. Ce champ contient une quantité inépuisable de pierres. Mais il y a encore plus dans la tourbière. Elles sont plus grosses et plus difficiles à déplacer. La terre ne consent à les relâcher qu'avec un soupir. Mais Arnie a décidé d'agrandir légèrement son champ comme si c'était une nécessité, comme s'il y avait de l'avenir ici. Il a même marmonné qu'il prendrait peut-être une vache pour le lait, ce qui permettra d'éviter d'en acheter au village. Et ce n'est pas mal non plus de pouvoir barater son beurre soi-même et de faire du skyr qu'on peut ensuite mélanger au gruau d'avoine. Les riches européens ne mangent pas mieux que ça. Alors, vous avez peut-être deviné ce que vous avez entendu Tout ça, ça vient d'Islande. La musique est celle du groupe Arstidir et les textes sont issus de romans de John Kalman Stevenson. Il s'agissait d'extraits de Lumière d'été puis vient la nuit, ensuite À la mesure de l'univers et Asta. John Kalman Stevenson est né à Reykjavik en 1963. Il a fait différents métiers, dont la pêche, la maçonnerie, des études universitaires qu'il n'a pas finies, et il a passé 3 ans au Danemark, puis a travaillé dans une bibliothèque municipale. C'est un écrivain prolixe, à l'écriture riche et poétique. Et je ne vais pas résister à vous en lire encore quelques extraits. Sans même qu'on lui demande s'il le désirait, c'est une loi fondamentale. Tant qu'il reste quelques grains de café, tant qu'il y a quelqu'un de vivant pour le préparer, on se doit d'offrir ce noir breuvage qui aide depuis longtemps les gens à survivre dans ce pays âpre et beau, tout en facilitant les conversations. C'est l'heure du café, avait lancé Gisli, l'époux de Gudridur. Dans la lumière d'avril, dès qu'elle était sortie du passage, la main devant les yeux pour ne pas être éblouie, après être restée bien trop longtemps dans l'ombre. Elle avait salué le pasteur. « C'est un grand honneur, avait-elle dit, et des livres pour moi, cela me laisse sans voix. » Elle s'était donc tue et s'était contentée de sourire. C'était son autre sourire, le redoutable, et Pétur le voyait pour la première fois. Il avait reçu 2 lettres d'elle. 2 ou, à strictement parler, plutôt 1, puisque la première était adressée à la rédaction de la revue. Pourtant, Gudridur se trouvait déjà tout entière dans cette lettre, sans que c'eût été son intention, sans en avoir conscience. Ce qui était sans doute plus redoutable encore. Ce qui avait conduit Pétur à lui répondre et à demander au postier de lui remettre sa missive en main propre. « Ça me fait un détour », avait protesté le facteur, cet homme gigantesque. « Ça me rallonge. »« Cette vie n'en est pas une si nous empruntons toujours la même route, si nous ne faisons jamais de détour », avait rétorqué Pétur avant d'ajouter « Vie !» Injonction évidemment incompréhensible. « Comme si j'étais défunt », avait plus tard répété le postier un certain nombre de fois et un peu partout. Beaucoup de gens avaient donc eu vent de cette lettre. Certes, ils ignoraient son contenu, mais ils savaient que le révérend Pétur avait écrit à la maîtresse de maison du Psalir, là-haut, sur les Landes, écrit à cette femme, dont la renommée franchissait bientôt les limites de la région, grâce à son article sur les lombriques. Cette femme, qui n'était jamais allée à l'école, mais qui savait quand même écrire. Ils avaient soupiré, ils s'étaient ébroués. Quel délice, avait-il dit en cœur, tellement heureux d'être ensemble que les défunts avaient souri. Ils avaient fini leur gâteau, préparé leurs lignes, les avaient posées, puis étaient restés à attendre que le poisson morde dans l'abîme des ténèbres sous leurs pieds. La mère respirait tranquille, à la ferme. Afrun attendait qu'ils reviennent avec leur prise qui constituerait le dîner. Du poisson grillé de la première fraîcheur. « Je préférais du cabillaud », avait-elle dit quand ils étaient partis. « Dans ce cas, nous allons demander au cabillaud de mordre à nos lignes et nous chasserons les autres idiots », avait promis Aldor. Et les voilà maintenant qui attendent, leurs lignes à la main sur la barre qui oscille doucement, tout au bonheur de l'instant. Le magnétophone diffuse les chansons que Aldor a compilées dans son studio pour cette journée d'anniversaire, pour cette sortie en mer. Le soleil est un feu dans le ciel. Il se consume comme la vie, parce que la vie doit se consumer. Elle doit toujours se consumer. Sinon, le monde refroidit. Quatrième nuit, elle l'autorisa à l'embrasser. La cinquième, elle prononça son nom pendant la jouissance. La sixième, elle renonça à l'attacher et après ça, ils firent toujours l'amour sur le canapé sous la grande photo aérienne qu'elle aimait tant. Elle se disait fascinée par cette alliance de beauté brute, de douceur et de brutalité. « Je t'apporte à manger, lui disait-elle, et toi, en échange, tu me parles de ton fjord. » Explique-moi, comment on peut vivre dans un endroit dont tu affirmes que la température ne dépasse jamais les 17 degrés au plus fort de l'été et où les hivers sont si longs et sombres qu'on a l'impression que le monde a trépassé. Et pour la première fois depuis des années, Eggrikur eut envie de parler du fjord. Un douloureux désir de convaincre et peut-être de se convaincre lui-même que c'était son fjord à lui et que c'était un endroit où il faisait bon vivre, s'empara de lui. Il commença par décrire ce qui lui avait toujours manqué. La quiétude, les chants d'oiseaux, l'odeur fraîche de la mer, les nuits sombres de l'hiver et le ciel hivernal parsemé d'une telle multitude d'étoiles qui semblait plus proche de la terre qu'ailleurs dans le monde. Puis, il lui parla des gens. Il lui raconta d'abord des histoires venues d'un passé reculé, des récits qu'il connaissait bien à travers les recherches et les entretiens de Haldor, et aussi pour en avoir lu certains dans le Strandarposturin, le courrier des Strandir, quand il était enfant, à la ferme d'Odi. « Tes yeux brillent si joliment quand tu parles de ton fjord, disait Batul. On a l'impression que ta tristesse s'évanouit. Continue, ne t'arrête pas. » Ces trois extraits proviennent de « Ton absence n'est que ténèbres », toujours de John Kalman Stevenson. Magnifique roman, qui en dit tant, mais sur les hommes, sur les femmes, sur la vie, la mort, bref. C'est tellement dense que je vais dire, comme un personnage de ces romans, je n'ai pas assez de mots à ma disposition pour vous expliquer l'immense plaisir que j'ai eu à le lire. C'est émouvant, plaisant, subtil, évident, poétique, existentiel, attachant. Et ça parle des grandes questions de la vie. Et maintenant, je vais vous parler d'une autrice, ou d'une auteure, qui est aussi islandaise, et que j'ai eu la chance de croiser à Nantes lors d'un festival, qui s'appelle Odur Ava Olasdottir. Odur Ava Olasdottir est née en 1958 à Reykjavik. Elle a fait des études en histoire de l'art à la Sorbonne à Paris et elle est devenue prof en Islande, elle est devenue prof d'histoire de l'art puis directrice du musée de l'université. Et je ne vais pas résister non plus à vous lire quelques tout petits extraits de deux de ses livres que j'ai lus. Elle en a fait d'autres bien sûr et dont un que je trouve particulièrement beau qui s'appelle Rosa Candida. Voulez-vous ceci ou est-ce que vous préférez cela ? Demanda-t-elle. Je secoue la tête. Alors la femme se met à rire. De quoi avez-vous envie ? Demanda-t-elle. C'est la pire question qu'on puisse me poser car elle touche au tréfonds de mon être. Je ne sais pas encore ce que je veux. Il me reste tant de choses à expérimenter et à comprendre. C'est ça le problème, dis-je à la femme. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je me doute qu'on ne doit pas pouvoir être noté plus bas au barème du restaurant de la forêt qu'en ne sachant pas ce qu'on veut manger. La femme hoche la tête, compréhensive. Je prendrai ce que vous me recommanderez, dis-je, pour clore la discussion. La femme a l'air contente. Ce n'est pas la première fois que je demande à une femme de décider pour moi. Faites-moi confiance, dit-elle, d'un air à la fois mystérieux et rassurant. Vous ne serez pas déçu. Je suis seule dans la salle sous la tête de serre. Au bout d'un petit moment, la femme revient avec une assiette garnie et une bouteille de vin. Ce sera le premier plat d'une longue série. Elle verse du vin dans l'un des verres. « Je me suis permis de choisir aussi le vin, dit-elle. Bon appétit. » Elle s'écarte un peu de manière à pouvoir observer mes réactions. « Comment le trouvez-vous ? » « Très bon, dis-je, en levant la tête du pâté tiède nappé de sauce aux champignons des bois. » « Je pense bien. » Elle m'apporte la photo d'un hérisson pour me montrer l'origine du pâté. Dans le sillage du pâté de hérisson, suivent au moins trois autres hors-d'œuvre, pâté sur pâté, pâté de sanglier, pâté de canard et foie gras, après quoi trois spécialités du restaurant de la forêt, poitrine de chevreuil, filet d'élan, cuisseau de cerf, chaque plat succédant à l'autre. D'après la série de photos que la femme me présente à chaque plat, tout, absolument tout ce qu'on sert ici vient de la forêt. On mijote ici les bestioles que j'ai redouté d'écraser toute la journée. Ma petite fille fait sa sieste et je m'installe devant mon amante en train de lire, assise à la table de la cuisine. Elle écarte aussitôt le livre. J'ai l'intention de lui dire que je vais monter au jardin, au lieu de quoi je me surprends à dire tout autre chose. Je me demandais si on pourrait parler ensemble de nous. Comment ça, de nous ? Si on pourrait discuter de la nature de notre relation. Elle a l'air étonnée. De quelle nature ? Elle dit cela tout bas et les yeux baissés. Elle tient toujours son stylo. Cela veut dire qu'elle n'a pas vraiment interrompu ce qu'elle faisait avant que je la dérange. C'est seulement une petite pause, le temps de répondre à une ou deux questions. Le soir, elle n'est pas longue à poser son stylo dès que j'ai fini d'endormir la petite. Mais pas maintenant. Elle n'est pas disposée à discuter de notre relation. Ce n'est pas d'actualité. Je me suis trop pressée. Je n'ai pas choisi le bon moment. En fait, j'ai très peu de choses à en dire moi-même. On couche ensemble ? Il y a un gouffre entre ce que je dis et ce que je pense. Oui ? Je me tais. Il ne faut pas que tu tombes amoureux de moi, dit-elle enfin, car je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je ne lui dis pas que c'est probablement trop tard. On ne peut pas s'attendre à ce que les sentiments durent éternellement, dit-elle. Je médite sur ce qu'elle veut dire par là. La vérité est que je suis justement en train de me demander si je ne pourrais pas vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours, avoir hâte de me mettre au lit avec la même femme tous les soirs. Au bout de 55 ans, j'aurai l'âge de papa, 77, 50 années de plus, ça fait à peu près 18 250 soirs et nuits avec la même femme. À moins d'un accident de voiture dans le joli creux d'un champ de lave, cela revient donc à exulter à la perspective de 18 250 nuits. Dernière petite lecture, extrait de Eden, toujours d'Odur Ava Olafsdottir. À ce stade, j'hésite à lui signaler que je ne suis pas certaine que ça soit une bonne idée d'enseigner à des gens qui ont fui leur pays dévasté par la guerre et qui rêvent pour la plupart de vivre ailleurs, une langue minoritaire dotée d'un système complexe de déclinaison et de conjugaison, une langue où comprendre quelqu'un et divorcer s'exprime en recourant au même verbe, skilja. Une langue qui n'est parlée que dans le troisième pays le plus venteux de la planète. C'est drôle, délicat, subtil, attachant. Ça parle aussi, en particulier dans Éden, de la fragilité de la nature. Ça parle dans les deux de la nécessité des rencontres. Il y a toujours une pointe d'ironie, mais tout en douceur. Et puis, en arrière-plan, l'histoire de la crise climatique qui frappe les Islandais de plein fouet, avec des tempêtes de plus en plus violentes et la fonte des glaciers qui leur fait craindre de terribles éruptions volcaniques dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, donc deux auteurs que franchement je vous recommande, qu'on peut trouver soit pour certains des romans à la médiathèque de Florac, soit chez notre libraire préféré de Florac. Et après, si vous n'êtes pas tenté par ces romans, qui sont parfois un peu bizarres parce que ça passe d'une époque à une autre, mais on s'en sort très bien, croyez-moi. Il y a aussi des auteurs de polar islandais, dont Ragnar Jonasson, qui lui est traducteur d'Agatha Christie et dont j'ai lu La dernière tempête, qui est vraiment un polar qui parle aussi quand même très bien de l'Islande sur un mode différent. Et puis il y a aussi des films. Je vais juste vous parler ou vous nommer juste un film qui est Woman at War de Benedict Erlingsson. C'est le combat d'une femme contre une industrie d'aluminium que l'on peut trouver à la Nouvelle Dimension et que je trouve assez original et surtout empreinte d'une ambiance très islandaise. Et puis, pour finir ce parcours islandais, voici une nouvelle musique d'Artistir qui est Silfarskin, si je prononce bien. Fascinant, l'Islande. Juste pour vous rappeler quand même, j'avais découvert ça en cherchant un peu des choses sur l'Islande, c'est en fait le voisin le plus proche de l'Islande, c'est le Groenland, qui est à 287 km, alors que la Norvège se trouve à 970 km. Donc c'est vraiment un endroit particulier et visiblement très beau. Donc pour rappel, les musiques que vous avez entendues étaient, alors j'essaye de prononcer correctement, je n'ai pas fait beaucoup d'islandais dans mon cursus scolaire, donc c'est un petit peu approximatif. Le groupe s'appelle Artidir, et les morceaux, le premier c'était Ljóð í sand, celui que vous avez entendu entre les lectures c'est Ró, et le dernier Silfarskin. En ce qui concerne les romans donc de John Kalman Stevenson, Il y a, pour démarrer, Lumière d'été, puis vient la nuit, qui est de 2005, mais traduit en 2020. Il y a une trilogie dont je n'ai pas parlé, où il y a Entre ciel et terre, en 2010, La tristesse des gens, des anges, pardon, 2011, et Le cœur de l'homme, 2013. Ensuite, il y a un diptyque, c'est deux romans qui se suivent. D'ailleurs, Les poissons n'ont pas de pieds, 2015, et À la mémoire de l'univers, dont je vous ai lu des extraits qui datent de 2017. Asta, 2017, traduit en 2018. Et le dernier, Un pavé magnifique, Ton absence n'est que ténèbres, qui est de 2020, traduit en 2022. En ce qui concerne Odur Ava Olafsdotti, donc Rosa Candida, 2010, traduit en 2015, et Eden, 2022, traduit en 2023, et puis bien d'autres romans qu'elle a écrits. Voilà, je vous laisse sur cette ambiance islandaise et vous dis à bientôt.
Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.